Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous sommes aujourd'hui dans un des plus beaux évangiles qui nous est donné, c'est l'évangile des noces de Cana. Cet évangile se place dans ces dimanches qui sont entre le temps de Noël et le début du carême. Plus particulièrement, pour les orientaux, avec la Septuagésime, qui sera déjà en violet pour nous, mais qui ne sera pas le début du carême pour le mercredi décembre. Alors, ces quelques dimanches qui se trouvent entre les fêtes en blanc et le début de l'invitation à suivre le Christ sur la voie de la croix, en violet, nous retrouvons quelques dimanches dans cette couleur verte qui est traditionnellement la couleur de l'espérance. Et tout cela pour nous dire que pour faire résonner jusqu'au 2 février plus particulièrement et jusqu'à la fête de la présentation qui cette année tombe un dimanche avec distribution des cierges bénis et avec la présence des reliques de Sainte-Geneviève donc qui seront à nouveau présentes à partir du vendredi à la paroisse jusqu'au lundi, eh bien, cette espérance qui a fait qu'un évêque de Paris, dans les années 1170, avait fait venir les reliques de la Vierge Geneviève à Notre-Dame de Paris pour que ceux qui étaient atteints de la fièvre des ardents, avec à cause de l'ergot de seigle, qui avait fait plusieurs milliers de morts, puissent se recueillir, demander à Dieu la guérison. Il y eut une centaine de guérisons. Ce jour-là, c'est le miracle des ardents. Alors nous-mêmes, en 2020, et parmi vous, il en est certains qui ont pu enfin venir par les transports, d'autres reviennent d'avoir manifesté leur désir que la France reste dans la vérité du couple humain et de l'enfantement. Eh bien, nous sommes donc dans ces dimanches en vert, dans ces dimanches d'espérance, où Dieu veut nous rassurer et nous dire combien il a désiré venir dans notre chair, dans notre nature humaine. L'épître de saint Paul est très sévère, elle est épouvantable. Elle commence d'abord par les différents ministères, et cela aujourd'hui est même déjà difficile, puisque comme le dit Mgr Léonard, qui soutient le cardinal Robert Sarah, qui lui-même a obtenu la bénédiction et les écrits du pape émérite Benoît XVI, ces ministères de prophétie, d'enseignement, d'exhortation, de présidence, comme on dit, eh bien tout cela est consacré par la Nouvelle Alliance dans l'incarnation, dans ce temps qui va jusqu'au 2 février nous occuper en arrière-fond. Dieu s'est fait homme. Voilà ce que nous devons méditer depuis la nuit de Noël. Et jusqu'au 2 février, où cela sera le jour même anniversaire, en quelque sorte liturgique, de la parole de Siméon, qui reçoit l'enfant Jésus, qui dit que toutes les nations vont connaître le Messie du peuple juif, et qui va annoncer à la Vierge Marie qu'un glaive transpercera son cœur, eh bien, nous sommes invités, tout de même, à une profonde espérance, dans ces dimanches en vert, entre les dimanches en blanc, de Noël et de l'Épiphanie, et le violet de la Septuagésime et du Carême, pour nous dire la profondeur de cette incarnation qui nous projette à travers les années et dans notre futur. La deuxième partie de l'épître de saint Paul aux Romains nous porte à véritablement entrer dans la volonté de Dieu la plus difficile. Puisque Dieu est tout-puissant, justice, et en même temps, si d'un cœur profond, du plus profond de nos cœurs, comme dit le cardinal Sarah, nous demandons pardon des plus grands crimes, il nous pardonnera. C'est la raison pour laquelle, lorsque saint Paul dit aux Romains, ayez horreur du mal, attachez-vous au bien. Ça, c'est le travail de la conscience habituelle. On n'a pas besoin d'être chrétien pour cela. C'est le libre arbitre, c'est la conscience. Aimez-vous les uns les autres d'un amour fraternel. Rivalisez d'égard envers vous. Mais Jésus nous dit une chose, c'est que les païens aiment ceux qui les aiment. Et qu'on ne fait rien de plus que les autres lorsque nous nous aimons les uns les autres entre personnes aimables. Soyez sans négligence dans le zèle, fervent d'esprit tout au service du Seigneur, joyeux dans l'espérance, patient dans l'affliction. Ah, on commence déjà à rentrer dans la vraie religion. Persévérant dans la prière. Oui, avoir confiance en Dieu et continuer à lui parler. Croire non seulement qu'il est le Tout-Puissant, mais qu'il nous aime et qu'il est toujours présent à nous, qu'il connaît notre passé, nos plus petites pensées et notre futur. Et là, cela vient trop difficile. Quoique, non. Partagez les besoins des fidèles, soyez hospitaliers, dans la mesure de la vérité. Si vous recevez une personne chez vous, c'est possible. Si vous en recevez 10, cela devient compliqué. Il faut une autre solution. Mais bénissez vos persécuteurs, bénissez et ne maudissez pas. Et cela, c'est vraiment le plus difficile. Aimez vos ennemis. Mais aimer ses ennemis ne consiste pas à leur souhaiter bonne santé et prospérité matérielle. Ce qui est le plus difficile dans la vérité de Dieu, c'est qu'il voudrait que nous soyons parfaits comme lui est parfait. Il voudrait que nous prions pour la conversion de ceux qui nous ont fait souffrir et qui nous ont blessés. Il voudrait, ce Dieu terrible, que nous soyons aussi miséricordieux que lui, aussi fins que lui, alors que nous n'avons pas la même connaissance que lui. Nous voudrions que notre ennemi soit puni à la mesure du mal qu'il a fait. Et nous supposons qu'il est malicieux, qu'il était tout à fait conscient de ce qu'il faisait. Et nous soupçonnons Dieu de pardonner sans qu'il y ait de repentir. Alors là, c'est faux. Car si Dieu est bon et miséricordieux, il y a une condition qui apaise la justice, qui nous fait ressembler tant aux païens, c'est que celui qui se recevra le pardon devra saisir la grâce de demander pardon et d'être dans le repentir. Il devra ne pas avoir été écrasé par son péché et espérer dans le pardon de Dieu. Mais celui qui ne demande pas pardon, celui qui ne veut pas recevoir le pardon, il existe. Ce sont des personnes qui existent, ce ne sont pas des abstractions. Et ne faisons pas de Dieu un être injuste. Celui qui ne demandera pas pardon, alors qu'il peut le faire, il a la grâce pour le faire, rejettera avec violence l'amour de Dieu. Et voilà que la Vierge Marie demande à Dieu de compenser la malice, la haine, la méchanceté, la souffrance, la douleur sur des siècles et des siècles. La Vierge Marie, qui a entendu la parole de Siméon, qui sait qu'elle va voir le serviteur, le Messie, souffrir et porter les péchés du peuple, d'une manière inexplicable, alors qu'elle avait souffert de ne pas voir son fils pendant 3 jours, et qu'elle l'avait retrouvé au temple à 12 ans dans la majorité religieuse juive, posant les questions aux prêtres, aux savants, aux scribes, aux docteurs de la loi, connaissant parfaitement la Sainte Écriture et leur sens, connaissant la volonté de Dieu, connaissant Dieu. Pourquoi nous as-tu laissés dans l'inquiétude? Nous avons souffert, ton père et moi. Oh oui, le bon Saint Joseph, il mérite bien le nom de père, comme tout père adoptif, comme toute mère adoptive. Et pourtant, lorsque Jésus leur répond « Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» la Vierge Marie n'a pas compris avec Joseph la réponse vertigineuse. Elle l'a gardée dans son cœur immaculé. Alors pourquoi ce soir, à Cana, lors de ce mariage, lors de ces noces de l'agneau, c'est elle qui anticipe la passion de son Fils? C'est elle, la nouvelle Ève, qui répare le péché d'Ève et qu'elle demande à Jésus de transformer l'eau en vin. Ils n'ont plus de vin. C'est donc qu'elle est bien volontaire et que son oui fut un oui, que son fiat fut un fiat. Et que sans être masochiste, si nous entrons dans la miséricorde de Dieu et l'amour de Dieu, comme le dit saint Paul, nous devons nous aimer les uns les autres, aimer nos ennemis et vouloir qu'ils se convertissent et qu'ils vivent, quitte à souffrir, quitte à mourir nous-mêmes, quitte à être une mère qui voit son fils mourir sous ses yeux. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de cette vie, de cette force que donne le vin. Et Jésus transformera ce vin en sang. Et Marie sera au pied de la croix, avec ce cœur immaculé qui sera transpercé par le glaive. Marie est dans la prière, elle demande la grâce des grâces. Elle demande le vin, que l'eau devienne du vin, que le baptême dans l'eau que nous avons reçue devienne le vin des noces et devienne le sang du sacrifice de la messe. Elle est vraiment médiatrice de la grâce, cette femme. Et quand vous entendez des exégètes, des commentateurs, voire des prêtres, des évêques même, dire que Jésus a rabroué sa mère, mais quel manque d'intelligence de tout l'enseignement de l'Église. Quand Jésus lui dit « femme », il lui dit « Ève ». Oh, que ce n'est pas méprisant dans la bouche de Dieu et dans la bouche de ce Fils, de cet enfant Jésus, de cet homme Jésus. Alors, pour cette nouvelle année, que je vous souhaite excellente, pour ceux que je n'ai pas vus depuis le 5 décembre, eh bien que nous puissions avoir cette espérance de ces dimanches en vert, et que même si nos blessures sont profondes, et que la justice s'accomplira pour ceux qui nous auront haïs, blessés, et qui ne se seront pas repentis, et qui iront en enfer, s'il vous plaît. Mais Dieu voudrait que nous le lui laissions, que nous le laissions faire. Et que si cet homme, cette femme, dans la vie éternelle, en nous voyant notre propre mort, quand nous nous retrouverons, au jugement dernier peut-être même, nous demandera pardon, parce qu'elle aura demandé pardon à Dieu. Qu'est-ce que nous oserons faire lorsque Dieu nous donnera la lumière et la connaissance du fond de l'âme de cette personne qui, du fond de son cœur, demandera pardon? Voilà la religion chrétienne, et il n'y en a pas d'autre. Parce que c'est la plus difficile, parce que c'est la plus belle. Alors que la Vierge Marie nous soutienne dans nos épreuves, dans nos blessures, même dans des haines continues, pas des anciennes blessures, des anciennes offenses, mais des offenses actuelles, où nous ne comprenons pas pourquoi tant de haine, tant de malice, tant de divisions inutiles, alors que la force d'âme, la vertu, dépasse nos péchés. Et que quand le cardinal Sarah et le pape émérite Benoît XVI nous disent qu'il faut que le prêtre ressemble au Christ, que nous ne soyons pas emportés par la propagande terrible, redoutable, de mettre en avant toutes les ordures des prêtres indignes, en oubliant tous les saints prêtres, en oubliant des générations et des siècles de moines, de moniales, de religieux, de religieuses et de prêtres qui ont été fidèles à l'amour de Dieu et qui l'ont transmis. Alors que nous puissions, en ce dimanche, nous-mêmes être fidèles et demander à la Vierge Marie de communier au corps, au sang, à l'âme et à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit.